Alors, quelques points sur l'entrepreneuriat et spécifiquement l'entrepreneuriat féminin, puisque c'est la journée de la femme entrepreneur en fait aujourd'hui. Hein. Savez-vous que 61% des femmes souhaitent entreprendre afin d'être indépendantes? 61% des femmes. Savez-vous que sur les 525 000 91 entreprises créées en 2015, 32% ont été créées par des femmes? Bon, c'est pas encore assez, mais ça fait déjà pas mal. Alors là, nous avons un panel de 5 entrepreneurs. Elles ont osé quitter leur job, pour certaines, pour se lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Elles ont osé suivre leur passion, passer de l'idée à l'action, parfois sur un marché très concurrentiel. Je vous propose de passer une heure avec 5 femmes ultra successful.
La pression monte.
Passionnées, enthousiastes, mais aussi lucides quant aux difficultés rencontrées. Je vous propose de passer, mesdames et messieurs, une heure avec Delphine Plisson.
Bonjour.
Delphine, qui après des responsabilités dans la mode pour des marques comme Agnès B, Yves Saint Laurent, Claudie Pierlot, a décidé de tout plaquer à 40 ans pour construire un lieu de gastronomie, un lieu où on peut y trouver les meilleurs produits de bouche de France, la maison Plisson. Je vous propose de passer une heure avec... Ah oui, on peut applaudir. Je vous propose de passer une heure avec Anne-Marie Gabilica.
Bonsoir à tous.
Après des années cosmétiques chez L'Oréal, a décidé, sur une pure folie, de lancer sa marque Green de cosmétiques aux Olutions. Ça, hein, quelle audace. Bravo Anne-Marie. À 34 ans.
Non, j'ai 30 ans, j'avais 30 ans, mais c'était il y a 7 ans, malheureusement.
Je vous propose de découvrir Hélène Froment.
Bonjour.
Qui a eu un parcours 100% web. Oui. 100% web, Feu France Télécom, Alta Vista, lemonde.fr, 20minutes.fr, c'est ça?
C'est ça.
Hein, donc beaucoup de petits sauts
web et médias.
De médias web. Mediapart, le dernier. Et Hélène, après toutes ses expériences dans le web, a lancé Wellcut.tv, une plateforme de partage d'extraits vidéo. Quelle agilité. Et je vous propose de découvrir Laurence Potier-Caudron, présidente fondatrice du réseau Temporis.
Bonjour.
Bonjour Laurence. Alors Laurence a passé des années chez Danone dans le commercial, La Redoute dans le management, chez Adeco, donc société d'intérim, avant de fonder sa propre marque de franchise avec aujourd'hui, j'ai revu mes chiffres parce que j'étais à 130, mais en fait depuis ce matin c'est 140 franchises en France. Waouh. Quelle force. Et Sandra Legrand, après 12 années chez Coca-Cola, qui lance à 34 ans.
Alors, on ne va pas dire l'âge de l'entreprise, parce qu'après, tout le monde va connaître mon âge.
La première plateforme web dédiée au comité d'entreprise, ex-Canal CE, devenue aujourd'hui Calidea, revendue depuis, donc Sandra est presque business angel pour tous celles qui le souhaitent.
Ne dis pas ça, ça va faire.
Donc, merci Sandra de nous accompagner sur cette heure.
Merci. On aurait même pu titrer « Quitter un grand groupe pour créer sa boîte hein, » avec le panel.
Oui, c'est vrai. Alors, j'ai envie de vous demander à chacune deux choses. D'abord, quel a été le déclic pour faire ce que vous faites aujourd'hui et combien de temps vous avez mis à passer de l'idée au lancement réel du projet? On y va. Qui commence?
Alors pour ma part, dans l'ordre d'arriver à l'écran, le déclic a eu lieu il y a très longtemps parce que je vivais aux États-Unis au début des années 90, où j'étais étudiante et j'étais assez fascinée par des concepts comme Dean and DeLuca ou Whole Food Market qui se développaient à l'époque. Et j'ai espéré pendant 20 ans que quelqu'un ferait ça en France, pays de la gastronomie et du bien manger. Et à 40 ans, ayant constaté que personne n'avait l'air de s'y coller, j'ai décidé de m'y coller moi-même. Voilà.
Alors, combien de temps ça a pris, Delphine, à partir du moment où vous avez...
La gestation concrète,
voilà. Ouais.
À peu près 2 ans et demi, à peu près 9 mois pour vraiment conceptualiser, canaliser l'idée, en faire quelque chose de concret à travers un book de présentation et un business plan. Et ensuite, 1 année pour monter le financement et faire le chantier, trouver l'équipe et les produits avant l'ouverture.
Mmh. Anne-Marie, donc chez L'Oréal, le déclic, il a eu sur place
En fait, moi, je me rendais compte que dans cette industrie, il y avait pas mal de choses qui n'étaient pas, pour moi, très claires et surtout qu'on pouvait faire mieux. Par exemple, il y avait beaucoup de marketing sur les produits naturels, alors que en vérité, les formules sont très peu naturelles.
Ouh là 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 là.
C'était quelque chose qui me... Non, mais c'est quelque chose qui me...
Tant pis pour L'Oréal.
Qui me tracassait beaucoup. Première chose. En plus, je me rendais compte que c'était toujours les mêmes produits avec un ingrédient star qui est censé être miraculeux, tout faire pour tout le monde. J'y crois pas. Moi, je connais bien la peau. Je suis plutôt scientifique de formation. Je suis biochimiste et je connais bien la complexité de la peau. Donc là aussi, ça me posait question. Je me dis, un active star qui est censé tout faire pour tout le monde, j'y crois pas. Et dernier point...
il faut dire aussi, Anne-Marie, que vous êtes ingénieure...
aussi agronome.
Agronome.
Et en fait, justement, j'étais passionnée de grands singes et à la trentaine, je me suis dit, est-ce que tu pars sauver les orang-outans à Bornéo? Oui, les grands singes,
d'accord.
Donc les primates. Et en fait, j'avais vraiment envie de faire quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'industrie pour laquelle je travaillais, utilisait 20% de l'huile de palme mondiale et donc contribuait à 20% à cette déforestation massive qui est en train d'arriver. Alors c'est encore loin de chez nous, c'est en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais vous inquiétez pas, ça nous touche aussi au travers du dérèglement climatique qui s'ensuit. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que je pars en ONG ou est-ce que je monte ma boîte en essayant de faire changer cette industrie? Bah, c'est la voie que j'ai décidé de prendre. Et donc voilà, à 30 ans, j'ai dit, bon bah vas-y ma grande, lance-toi, c'est pas très grave si t'échoues, je pense que le pire, ça sera de pas avoir essayé. Donc voilà comment est née Olution.
Ouais, ultra engagée, Anne-Marie, bravo. Hélène.
Alors si on parle chronologie, moi j'ai quitté Mediapart il y a un peu plus de 3 ans, avec l'idée de fonder un projet. Néanmoins, j'ai commencé par faire du conseil pour les médias et dans leur développement numérique. Et c'est en discutant avec Nicolas, avec qui je travaillais depuis 10 ans et qui est devenu mon associé, en particulier sur la partie technique, qu'on a eu cette idée d'inventer le copier-coller vidéo pour tous, sans compétences nécessaires en termes d'édition vidéo. Une fois que l'on a eu cette idée, on a ensuite pendant 6 mois travaillé à un prototype que l'on a présenté à des médias vidéo, BFM, Figaro, ce type de
médias.
Donc
le développement, vous l'avez fait faire à l'extérieur?
Non, le prototype, on l'a développé nous-mêmes, en l'occurrence
vous-même.
Plutôt Nicolas, puisqu'on avait ces compétences-là, on a tout de suite décidé de s'associer. Et donc on a développé le prototype nous-mêmes, on l'a présenté aux médias. Et il a fallu ensuite, on a fait appel à quelques compétences externes pour la technique.
D'accord.
Il a fallu un peu plus de 9 mois avant que notre produit soit en place sur les premiers sites partenaires. Et ça, c'était en mai 2015. Et 1 an ensuite encore pour développer notre solution, même un peu plus d'un an pour développer notre solution réellement grand public, puisque l'application mobile Wellcut va sortir dans quelques semaines. Donc ça vous donne à peu près. Donc il a fallu plus de 2 ans pour en arriver à un produit grand public réellement ouvert à tous.
C'est bien hein, 2 ans parce que moi entre mon idée et faire effectivement ces formules-là, etc. Ça m'a pris 3 ans de R&D. Donc bravo pour 2 ans.
1 an, 9 mois, 2 ans, 3 ans.
Laurence. Alors, déjà, moi, le premier déclic, ça a été la verbalisation du fait que je voulais devenir chef d'entreprise. Et ça, je l'ai eu. Oui, en fait, c'était la première étape. C'est-à-dire, je discutais avec un client qui me disait, mais ce que vous avez fait, c'est formidable. Vous allez être directrice régionale. Je dis, oui, c'est très probablement. Et il me dit, oui, ensuite, vous allez vouloir faire quoi? Être DG de votre boîte? Ah, je lui dis, ah non, pas du tout, pas DG de la boîte où je suis actuellement, parce que c'est un poste hyper politique. Et moi, la politique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les choses pragmatiques, c'est le fait de faire avancer les choses. Et donc, il me dit, bah, alors, vous allez vouloir faire quoi? Et là, j'ai dit, bah, je crois que ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir ma propre entreprise. Donc ça, c'était la verbalisation.
C'était il y a combien de temps?
Ah bah ça, c'était il y a très longtemps. Il y a 20 ans.
Donc c'était même et pas quand vous étiez en franchiseur.
Non, j'étais pas encore franchiseur. Mais ouais. En fait, du coup, je me suis dit, bah, finalement, c'est ça que je veux faire. Et puis quand le déclic, il a été en fait quand j'ai repris une agence de travail temporaire qui ne fonctionnait pas depuis un an et demi. Dans une ville de 50 000 habitants, autant vous dire que tout le monde le savait. Hein. Donc, en fait, c'est beaucoup plus difficile de reprendre quelque chose quand tout le monde sait que ça marche pas que de créer, parce que j'ai fait les deux, donc je sais. Mmh. Et en fait, j'ai agité tout le monde pour leur montrer qu'il se passait des choses et que ça allait marcher. Et j'ai repris une agence avec une assistante du type « ça ne marchera jamais ». Et j'ai su que ça allait marcher le jour où elle m'a demandé une augmentation et que je lui ai dit « écoutez, il y a deux solutions, soit vous avez une augmentation, soit on augmente votre pourcentage sur le développement de l'agence ». Et qu'elle a décidé de prendre le pourcentage sur le développement de l'agence. Je me suis dit « là, on a gagné quelque chose ». Et donc ça, c'était l'idée de départ.
Ouais.
Et puis, en fait, quand j'ai repris cette agence qui ne marchait pas, je me suis dit « je me suis jamais dit que j'allais refaire Danone. Je me suis jamais dit que j'allais refaire La Redoute. Par contre, je me suis dit, tiens, quand même, si j'avais un super service informatique, un super service juridique, finalement, ça pourrait m'appartenir, cette entreprise. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça n'existe pas en France, la franchise, dans le monde de l'intérim? Et en fait, comme ça n'existait pas, ben, en gros, je l'ai fait. Voilà.
Ouais, c'est ça qui est important aussi. Hein. Delphine, ça n'existait pas en France.
Non, ça n'existait pas en France, c'est pas très grave.
Non, mais
avant
Anne-Marie a créé un produit qui n'existait pas aussi en comblant un besoin. Pareil avec Hélène, ça, c'est un nouveau produit forcément. Et Sandra.
Alors, moi j'ai fait beaucoup de petits jobs, et notamment chez McDonald's, j'avais monté avec, c'était le démarrage des anniversaires enfants, ça vous paraît loin, mais c'était nouveau en 92. Et puis, je suis rentrée chez Coca-Cola, et là je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter une entreprise un peu comme ça, autour des enfants. Et j'avais pas fini mes études, je suis rentrée chez Coca-Cola, j'y ai fait 11 ans, mais j'avais toujours un petit peu cette idée derrière la tête de créer une entreprise. Alors j'ai fait aussi deux enfants, c'est important dans le parcours d'une femme, hein, je parle à des femmes, donc c'est clé. Et puis, qu'est-ce qui m'a redéclenché? Ben, c'est les années start-up. Voilà. En 2000, les start-up, la création d'entreprises, les business angels, les first Tuesday, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait des badges, je cherche de l'argent, ou alors j'ai de l'argent. Et puis, j'arrivais dans ces jeudis des first Tuesday hyper excitée, et je me suis dit, tiens, est-ce que ce n'est pas le moment? Et puis, je vois une émission sur Capital, j'adore Capital, et là, des jeunes qui lèvent de l'argent, un peu boutonneux, dont j'avais rien compris au business plan, mais je me suis dit, si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Donc, j'ai eu l'envie, avant de créer, donc ça, c'est aussi, peu importe l'ordre, je me suis dit, et je mangeais des pâtes à carbonara, je me suis levée et j'ai dit, allez, on monte une boîte. J'ai quand même demandé à mon mari, à l'époque, s'il était d'accord. Il m'a dit, allez, ok, bonsaï. Donc, j'ai cherché l'idée après. Et donc, chez Coca-Cola, j'avais plusieurs...
Donc, c'était, je veux monter une boîte, mais je ne sais pas de quoi.
Exactement, voilà. Mais l'envie est toujours plus forte que tout. Hein. Moi, je dis souvent, la plus grande qualité, c'est Antoine Riboud qui dit ça, c'est l'envie. Et à partir de là, j'ai cherché dans les métiers que j'ai cherché chez Coca-Cola. Je travaillais sur plusieurs marchés, notamment le marché At Work. Et c'est des distributeurs automatiques de boissons qu'on met dans les entreprises. Ce sont les CE qui décident de mettre ces distributeurs. J'ai commencé à regarder le marché. Je me suis dit, tiens, 35 000 CE, 11 milliards d'euros d'investissement. Est-ce qu'Internet ne ferait pas quelque chose d'intelligent dans ce marché-là? Qu'est-ce que je sais faire de la distribution, du marketing, du commercial, du merchandising? Est-ce que je peux faire une plateforme qui met en relation, d'une part, les produits, donc cinéma, parc, spectacle, chèque cadeau, bon d'achat, voyage, et d'autre part, les comités d'entreprise avec les salariés derrière?
Alors, combien de temps pour développer la plateforme?
Alors, on est allé très vite parce qu'en fait, il y avait un peu un stress. Hein. On se disait toujours qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre l'idée. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé à peu près en mars et on a lancé en septembre.
Wow.
Alors pourquoi septembre? C'est parce qu'il y avait des salons des comités d'entreprise en septembre et tous les investisseurs, parce que j'ai fait des levées de fonds Business Angel, me disaient mais pourquoi vous excitez comme ça pour démarrer en septembre? J'ai dit parce qu'il y a les salons, c'est un momentum important, il faut y aller en septembre. Donc en six mois, on a fait tout, le business plan, la création, l'idée.
Wow. Voilà.
Mais je me suis fait beaucoup aider par tous mes amis que j'ai fait bosser le week-end et le soir.
Très pragmatique, Sandra. Donc, on va repartir sur quelque chose de très pragmatique. Après l'idée, il y a le budget associé. Alors Sandra, comment on réunit les fonds pour lever, pour créer une plateforme comme ça et pour la mettre en ligne?
Alors, c'était aussi la belle époque en 2000 des grosses levées de fonds. Mais moi, j'arrivais juste après en fait la bulle qui venait d'éclater. Donc en fait, comment on lève? Sur sa conviction, sur sa motivation, sur son énergie, sur son optimisme et puis sur son professionnalisme quand même, puisque effectivement il faut parler de son idée, expliquer qu'elle est viable, expliquer
donc,
comment on va la développer.
Dès le départ, aller voir des investisseurs, pas de fonds propres, pas de non. Love money. Pas...
Alors love money, oui, on est allé voir des business angels, donc plutôt des personnes privées.
Okay.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a une relation humaine qui s'installe, parce que les business angels, c'est plutôt des gens, soit entrepreneurs, soit qui ont envie d'aider, soit qui ont fait fortune par différents biais. Et donc je leur ai dit, écoutez, vous investissez en bourse? Oui. Vous investissez dans des beaux tableaux d'art? Oui. Et ben moi, je vous propose d'investir sur Canal CE, qui s'appelait Canal CE à l'époque, et après Calidea, et surtout sur moi. Et en fait, je pense que les gens investissent beaucoup quand même, toujours, même encore, et même des années après, puisque j'ai refait une levée de fonds en 2008, qui était plus importante de 12 millions, mais ils investissent sur vous, parce qu'en fait, ils se disent ce qui est important, parce qu'une idée, finalement, après, on la délivre, enfin, il y en a beaucoup des idées, mais qu'est-ce qui est important, c'est l'exécution, et donc les business angels se disent, est-ce que cette femme ou cet homme est capable de surmonter et d'avoir une envie plus que tout.
Ok. Anne-Marie, comment on finance 3 ans de recherche et développement en labo?
Je suis pas le bon exemple. Moi, j'ai pris mes économies. Hein. Non, très vite, ça n'a pas suffi. Donc, je me suis beaucoup endettée. Et en fait, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de rester la plus indépendante possible. Donc, pas encore de levée de fonds du tout. On est, Dieu merci, on se auto-développe. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai choisi le canal Internet. Nous, on est vendu que sur Internet, justement, parce que pour nous permettre justement d'être suffisamment, de dégager suffisamment en fait de revenus pour l'entreprise,
ouais.
Parce que sinon, si je devais quémander des distributeurs, devoir développer tout ce que me demandait le distributeur, moi je me suis dit en plus j'ai pas spécialement envie, j'ai pas fait évolution pour être à la merci de distributeurs. Pour moi c'est un projet de liberté personnelle. Mmh. Alors on parlait du rythme de travail, etc.
Après.
Mais d'un autre côté, je me dis ok, je donne beaucoup de mon temps, mais par contre
je vais
essayer de choisir un petit peu avec qui je travaille, et j'avais surtout envie, et parce que je trouve que c'est excellent, enfin ce que tu as fait Sandra, c'est génial, parce que tu as utilisé le digital pour faire connaître ton activité, et ben moi, voilà, nous, Olution, on est une marque digitale, on est vendu que sur le web, et ça marche très bien, et voilà, je touche du bois, donc c'est vrai que c'est pour moi très important, et je me dis, si vous avez la possibilité de ne pas lever de fonds, faites-le, parce qu'à chaque fois que vous levez des fonds, il faut bien dire, hein, vous vous diluez. Donc moi je dis, il faut attendre le plus longtemps possible, ou quand vous avez déjà démontré que ça marche, etc., et que votre société a plus de valeur. Parce qu'au début, si tout de suite vous demandez quelque chose, vous êtes en position de faiblesse, et moi je dis, c'est jamais bon de l'être. Hein.
Moi, j'ai quand même aussi un petit peu investi, Emmanuel. Hein. J'ai quand même investi toutes mes économies. À l'époque, 40 000 euros. Non, parce que là, tout le monde va se dire, oui, elle a fait venir les investisseurs. Non, j'ai investi. Et moi, je dirais quand même une petite chose. C'est vrai que c'est important, c'est risqué, la création d'entreprise. C'est fabuleux, c'est fantastique, on y reviendra, mais c'est risqué. Donc moi, je déconseille quand même beaucoup de s'endetter ou de trop s'endetter. C'est-à-dire hypothéquer sa maison, etc. No way. Parce que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Pas parce que vous êtes mauvaise, mais parce qu'il y a des choses qui arrivent et il y a quand même une part de chance et de talent et de timing. Donc voilà, si on a des économies, ou si on peut demander aux copains de nous prêter, pas forcément d'investir dans le capital, mais de nous prêter, c'est quand même mieux. Voilà.
Alors quand on a beaucoup de copains, Delphine, on fait le tour des copains, c'est ce que vous avez fait?
Oui, alors dans mon cas, en l'occurrence, pour ouvrir une boutique de 500 mètres carrés dans Paris, mes économies ne suffisaient pas. Mes maris non plus. J'ai bien dit mais. Il y en a eu plusieurs.
Une option, ça, avoir plusieurs maris, c'est pas mal.
Donc en l'occurrence, il a effectivement... Alors pour autant,
Il faut mieux choisir, hein, même si...
Il est sympa, ton mari?
On n'est plus.
Ah ben voilà. Donc en l'occurrence, mes économies ne suffisaient pas. Je savais d'avance que ça allait être un projet qui allait coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que je n'en disposais. Pour autant, je voulais rester majoritaire, précisément pour pouvoir développer le projet comme je l'entendais. J'ai pas trouvé 50 solutions. En fait, un des avantages d'avoir 40 ans quand on monte sa boîte, c'est qu'on connaît quand même des gens. J'avais travaillé pendant 20 ans, donc j'avais un certain réseau. Je suis allée effectivement voir mes anciens patrons, en l'occurrence, qui se sont proposés pour se positionner comme business angels. Et ensuite, j'ai demandé à chaque personne que je rencontrais et qui acceptait de suivre le projet, de me présenter eux-mêmes des personnes susceptibles d'être intéressées. Dans mon cas, ça a duré à peu près 6 mois. J'avais réuni à peu près un tiers de la somme dont j'avais besoin pour ouvrir la maison Plisson.
Et ensuite, je suis allée voir les banques allègrement, 120 fois à peu près.
120 fois.
J'ai fait à peu près 120 rendez-vous. Avec à chaque fois, à chaque fois comme si c'était la première. Et c'est une question d'entraînement, hein. On s'habitue très vite. J'étais persuadée que le premier rendez-vous avec les banques, le type allait me regarder en me disant « Mais cette idée est formidable, c'est génial, je vous fais un chèque tout de suite. » J'ai assez vite compris comment ça marchait. Ça a pris un peu plus de temps que ça, mais ils ont réussi à me prêter les deux tiers de la somme qui me manquait, alors que je n'avais pas d'argent, je n'avais jamais monté de boîte, j'avais 40 ans, des enfants, plein de maris. Et a priori, je n'avais pas le profil idéal. Donc quand on veut et qu'on est vraiment convaincu, les banquiers finissent par se résigner à l'idée qu'il va falloir financer.
de guerre lasse.
Il faut rassurer tout le monde, dans la création d'entreprise, les banquiers, ouais. on en fait des rendez-vous. Donc c'est un vrai entraînement.
Alors, Laurence, oui et non. Oui et non. En fait, bon, moi j'ai vendu ma maison pour pouvoir créer mon entreprise. Et j'ai été voir un banquier qui a aussi bien voulu financer le reste.
Belle maison alors.
Non. c'était la moitié de la maison puisque je divorçais, donc j'ai récupéré la moitié de la maison. Voilà.
Donc divorcé pour mon téléphone.
Donc voilà. Donc ce qui a été une opportunité effectivement pour se lancer. Et en fait, si vous voulez, le lancement s'est fait. Moi, j'ai quitté l'entreprise en octobre et je lançais l'affaire le 24 décembre, entre Noël et Jour de l'An. En fait, ça a été au niveau du financement. J'ai complètement autofinancé le développement parce qu'en fait j'avais été, je vous l'avais dit, directrice d'agence sur une ville magnifique, Brive-la-Gaillarde. Et donc quand j'ai voulu lancer ma franchise, puisque quand j'ai créé la première unité, j'avais tout à fait en tête le fait que j'allais la développer en franchise. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que on était plusieurs associés au démarrage. Je vais être seule très rapidement maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a doublé le prévisionnel. Ce qui fait que le prévisionnel doublé nous a permis d'autofinancer le développement. Et c'était important qu'on puisse bien développer parce qu'on avait à l'époque pris un conseil en franchise qui s'appelle Charles-Georges Séroud, hein, qui est assez connu dans le milieu de la franchise, et PAC International, et qui venait tous les mois. Il me coûtait, à l'époque, c'était des francs, hein, mais c'était 12 000 francs la journée de conseil plus le billet d'avion. Wow. Donc autant vous dire qu'il fallait que je développe bien l'affaire pour bien financer le développement de ma franchise.
Wow. On va revenir à alors, ça tout à l'heure.
Il m'a fallu un an pour avoir mon premier franchisé. Donc ça a été quand même assez rapide en termes de développement, avec un contrat de franchise bien ficelé. Et en fait, ce que je voulais juste dire pour rebondir sur la partie bancaire, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour mes franchisés d'obtenir des prêts, parce qu'en fait la franchise c'est une réussite renouvelée. Donc en fait un banquier, je leur fais auditer ma structure franchiseur, quand ils ont confiance dans l'enseigne, moi mes franchisés ils ont tapis rouge, quoi. Et en plus quand c'est pas le cas, ça m'est arrivé de faire des packs d'associés, notamment avec des femmes qui avaient des compétences et pas les finances, pour les aider. En fait, je ressors au bout de trois ans du capital de mon franchisé pour qu'il puisse démarrer avec moi dans le capital. Allez, les banquiers, là, c'est plus tapis rouge, c'est tapis doré.
Waouh. Mesdames, si vous êtes intéressées, messieurs aussi, hein, je pense que là...
Messieurs aussi, hein. Pas de ségrégation.
Alors Hélène, dans le digital, est-ce qu'il faut beaucoup de fonds,
En termes de financement, on s'est autofinancé les premiers mois avec un fonctionnement particulier, mais qui est assez répandu dans le digital, où pendant la première année, on était, on va dire, à temps partiel ou à un équivalent mi-temps sur le projet, Nicolas comme moi, donc mon associé comme moi, le reste du temps étant utilisé, non, pour des missions de conseil.
Ah, oui.
Et donc on a entièrement autofinancé la première année de cette façon. Puis on a levé un peu plus de 300 000 euros l'été dernier, l'été 2015, auprès de Business Angel dans l'Internet, en faisant effectivement énormément de rendez-vous auprès de, à la fois d'amis dans le réseau et en essayant d'escalader et de tirer des fils point par point. Mais l'expérience est un peu similaire en résumé à celle de Sandra. Ce sur quoi les business angels ont investi à ce stade, et on va vérifier si c'est encore le cas dans les prochaines étapes, c'est réellement, principalement l'équipe, et donc l'expérience que nous pouvions réunir, Nicolas et moi, et l'énergie que l'on mettait dans le projet. Notre capacité à démontrer que l'on, à la fois on connaissait le secteur, on savait où on voulait aller, tout en étant agile et souple et prêt à nous adapter. C'est d'abord l'équipe et les personnes et notre énergie. Puis, évidemment, ce qui, à l'époque, était principalement un concept et un premier produit qui permettait de faire les preuves que ça tourne. Mais en termes de produits, on n'était pas encore du tout avec la solution telle qu'elle est développée aujourd'hui. Donc, on a beaucoup vendu à la fois nous-mêmes et le concept. Là, maintenant, on cherche à nouveau à lever des fonds. Il faut qu'on arrive avec des chiffres. Donc, la problématique, à chaque fois, on monte d'un
les
cran. Le concept ne suffit plus. Ouais. Il faut prouver la réussite.
On a vu l'idée, on a vu le budget. On va voir l'humain. Alors, soit on se paye un coach à 12 000 francs d'époque, la journée de conseil. En matière de conseil, après on verra les équipes à mettre en place, mais qui s'est fait aider par des mentors, des parrains, du réseau, enfin qui s'est fait aider pour affiner son idée, pour être sûr d'être sur les bons rails, etc.
Alors, le réseau aide énormément. Je n'ai pas formalisé cet accompagnement par du mentoring ou du parrainage ou quoi que ce soit de ce type, mais effectivement, j'ai passé des mois où tout rendez-vous, même avec des personnes qui a priori n'avaient rien à voir avec ni la vidéo, voire ni même le digital, tout rendez-vous me permettait d'avoir de nouvelles idées ou d'essayer d'imaginer des façons de ouais. développer en répondant sur des points.
Que ce si soit on n'a pas de mentor ou de parrain officiel, est-ce qu'on se met dans des clubs, dans des assos, dans des réseaux pour pas rester seul justement?
Moi, je suis passée par deux réseaux que je vous recommande. C'est le réseau Entreprendre, déjà dans votre département, si vous êtes de Paris, du Val-de-Marne comme moi, ou de l'Oise, enfin, etc. Donc, réseau Entreprendre, c'est des gens vraiment très sérieux. Ils m'ont donné un prêt d'honneur. Donc, ça, c'est tout à leur honneur. Donc, non, mais vraiment, ça aide beaucoup parce que, en fait, les banques, au départ, comment financer du stock, comment financer la R&D, c'est impossible. Donc, ça, c'était pour moi, en plus du prêt d'honneur.
30 000 euros, c'est
ouais,
ça?
30 000 euros en plus. Donc, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait tous les mois, une chef d'entreprise avec qui je pouvais discuter, échanger, avec qui je disais, non, je vais jamais
Alors,
y arriver.
C'est quoi le principe? Voilà. C'est un abonnement annuel? Pour le réseau Entreprendre.
Non, quand tu es lauréat, c'est juste tu es lauréat et c'est vraiment tu reçois. Puis un jour, quand tu es un petit peu plus grand, bah tu vas et c'est ce que je fais. Je reçois des nouveaux jeunes entrepreneurs à qui je donne des conseils, etc. C'est
D'accord.
un principe de gratuité, mais aussi de solidarité, de réciprocité.
D'accord. Donc le réseau Entreprendre.
Mais c'est un prêt, hein. On doit rembourser, mais il y a une franchise.
Ah oui, je rembourse tous les mois. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est bien. Et puis moi, j'ai aussi le WBMI. WBMI, c'est un réseau de mentorat au féminin. Et j'ai été accompagnée par une mentor féminine, Annie Combel. Ça a été monté par une banquière, Martine Yotto. Et ça a été vraiment aussi pour moi formidable. Ça m'a donné beaucoup de choses géniales et ça m'a permis aussi de partir en Californie à l'université Stanford pendant une semaine pour rencontrer d'autres femmes chefs d'entreprise super inspirantes. Donc vraiment, si vous pouvez rentrer dans ces réseaux, c'est non seulement un soutien psychologique, mais ça va vous amener des magnifiques rencontres.
Delphine, en matière d'aide, quand on passe de la mode, du luxe à l'alimentation, pour pas se planter, comment on s'entoure?
Alors effectivement, c'était un changement radical de produit. J'y connaissais rien du tout, à part mon goût personnel et mon appétence pour ce secteur. Alors au départ, j'y suis allée un peu au culot. Évidemment, visiter des concepts, aller voir un peu ce qui se passe à droite, à gauche, regarder des documentaires, bouquiner. Bon, on est en 2016, il y a Internet, ça aide quand même énormément aussi. Et puis après, au culot, en fait, sur LinkedIn, j'avais contacté la directrice marketing de la grande épicerie de Paris.
Ah, quand même.
Avec qui j'ai bu un café, à qui j'ai menti allègrement pendant 2 heures en lui disant que la fille d'une copine voulait faire un stage et qu'elle avait besoin d'info-marketing sur la grande épicerie, etc. Elle m'a sorti tout un tas de documents improbablement confidentiels. Après, je lui ai dit la vérité. Finalement, elle a trouvé ça plutôt rigolo. Et puis après, de fil en aiguille, toujours par LinkedIn, beaucoup, j'ai rencontré, en l'occurrence, le directeur d'exploitation de la grande épicerie, qui assez vite est devenu le directeur d'exploitation de la maison Plisson. Bon, il voulait partir. Hein, on ne vole jamais le mari de personne. Et en l'occurrence, assez vite, la directrice du restaurant a suivi. Et puis après, il s'avère que la directrice des achats d'un grand groupe d'alimentation était par le biais de personnes intermédiaires sur le marché. Je l'ai appris, etc. On s'est rencontrés. Elle est devenue directrice des achats de la maison Plisson après 15 ans chez Monoprix. Et de fil en aiguille, les choses se sont faites. Mais LinkedIn m'a beaucoup aidée.
D'accord.
Indirectement et directement à rencontrer même des gens aux États-Unis, etc. Et à échanger par mail sur tout un tas de problématiques très concrètes du métier. Voilà.
Sandra?
Oui, alors il y a une vraie entraide, il y a une grosse générosité dans la création d'entreprise. En plus, il faut savoir la stat qui est tombée l'an dernier, 19 millions de Français veulent créer leur entreprise et il y en a 500 000 par an qui passent à l'acte. Donc vous avez toujours des amis, de l'entourage, des copains, des amis d'amis, des relations qui ont envie de vous aider, ne serait-ce que pour vivre l'aventure avec vous. Donc ne vous gênez pas, faites-les vivre l'aventure, incluez-les dans votre business plan, enfin comme vous pouvez, mais il y a déjà tout ce cercle amical qui est quand même fabuleux. Moi j'ai mes business angels qui m'ont forcément aidé, un peu en termes de mentoring, et puis après j'ai découvert, puisque moi en 2000 il y avait beaucoup moins de choses qui existaient, mais après en 2005-2010, bah, tous les réseaux Entreprendre, WMI, où je suis plutôt mentor maintenant, mais effectivement c'est des fabuleux réseaux. Je suis allée à Stanford moi l'année d'avant, la première année. Voilà, donc c'est vrai que le monde est petit, mais le mieux c'est de oser demander à quelqu'un de vous accompagner. Voilà, il va pas venir tout seul, les gens vont pas se proposer, mais quand vous trouvez quelqu'un de bien, et c'est un peu ce que tu as fait, quand vous avez envie soit de débaucher, soit de lui dire viens m'aider, bah demandez-lui. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Il vous dit non, pas très grave, mais au mieux il vous dit oui. Voilà.
Il peut vous dire non et vous présenter d'autres personnes. Aussi ça m'est arrivé. Hein.
Moi, j'ai fait 70 rendez-vous, par exemple, pour ma première levée de fonds. Voilà. Donc, 70 où vous mettez vos tripes sur la table, vous mettez toute votre énergie. Et après, vous avez des « oui, mais c'est pas assez mature, oui, mais c'est trop technique, oui, mais les syndicats, ça, oui, mais machin. » Et mais, il ne faut pas perdre l'énergie parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vous dit « oui, sans mais ».
Ok. Et je crois qu'il y a www.franceactif.org qui finance aussi les femmes qui sont majoritaires dans leur entreprise.
D'accord. Il y a Femmes Business Angel aussi. Hein.
Femmes
enfin,
Business
y en a plein.
Angel, tout à fait. On va donc le budget, l'humain, on va passer à la com. Comment on fait de la com au départ quand on n'a pas forcément beaucoup de sous dédiés à ce poste-là? Comment on fait le buzz pour le lancement? Comment est-ce qu'on investit soi-même les réseaux sociaux, par exemple? Comment ça se passe? Qui veut commencer?
Alors, je commence parce qu'on va pas toujours faire dans le même sens. On est très, très bien éduqués. Vous avez vu que les femmes, on se met dans l'ordre, on se passe la parole. Hein, c'est pas désordonné. Alors, moi, j'ai fait deux choses. La première, c'est qu'il faut créer une histoire. Donc, au démarrage.
Storytelling.
Vous êtes qui? Vous êtes une femme? Vous avez des enfants ou pas? Moi, j'étais une femme, je suis toujours. J'avais deux enfants en bas âge, 1 et 3 ans. Je quittais un grand groupe comme Coca-Cola. Je faisais des levées de fonds, etc. Donc, il faut créer une histoire.
Il faut savoir raconter son histoire.
Qui plaît.
À la mère Denis, quoi.
Et ensuite, avec le toupet, vous appelez des journalistes. Donc, si vous avez quelques personnes qui vous connectent à quelques journalistes, c'est mieux. C'est l'intérêt des réseaux aussi. Et vous appelez des journalistes et vous essayez de les voir. Il faut aller boire un café avec les journalistes. Il ne faut pas prendre les interviews au téléphone. Parce que quand ils vous voient et que pendant une demi-heure, vous discutez avec eux, etc., au bout d'un moment, ils écrivent. Voilà. Et c'est sujet, verbe, compliment. Vraiment, c'est sujet, verbe, compliment parce que vous les avez embarqués dans votre histoire. Vous êtes forcément passionné quand vous créez. Donc, après, ils écrivent des beaux articles. Donc, de fil en aiguille, ça, c'est une chose, c'est créer son histoire, voir les journalistes. Et puis après, faire être dans les trophées, présenter des concours, etc. Parce que l'air de rien... Ben, si on les gagne ou même si on les gagne pas, si on est dans les trois premiers ou si dans, même quand on est candidat simplement, ben, ça vous crée de la notoriété parce que quelque part, ben, vous allez être sur les programmes, vous allez être sur le net, etc. Et puis les réseaux sociaux, bien sûr, maintenant c'est encore mieux, hein, ça ne l'était pas en 2000. Là, je parle comme une
vieille,
mais c'est vrai qu'en 2000, il n'y avait pas tout ça et maintenant c'est juste fabuleux l'effet amplificateur que ça donne.
Anne-Marie.
Oui, alors nous, on a eu j'ai concouru à un prix, c'était du ministre de l'écologie. Donc on a
un prix
du ministre de l'écologie qu'on a gagné, parce que voilà, on est la seule marque au monde qui est à la fois 100% naturel, dans chaque soin, 65%
bon,
plan bio.
Bon, le prix, il faut aller le chercher aussi.
Voilà.
Donc aller chercher les prix, comme disait Sandra.
Ouais, et bon, c'était assez émouvant, parce qu'on a fait aussi de l'éco-conception, ça, j'ai même pas eu le temps de vous en parler, c'est-à-dire vraiment essayer de minimiser à la source tout l'impact écologique des produits. Enfin, ça a été très long, très dur. J'ai souvent l'habitude de dire, en cosmétique, le plus grand budget, c'est souvent la marketing et la communication. Moi, c'était la R&D et l'éco-conception. Autant vous dire que tout le monde pensait que j'étais très mal partie. Mais, et du coup, pour la com, on a fait vraiment de l'artisanal, beaucoup justement les réseaux sociaux. Nous, on a une communauté qui est vraiment géniale sur Facebook, sur Instagram. Venez voir
alors,
ce qu'on fait.
Qui l'a fait ?
Alors, ça, c'est au début, c'est moi, puis il y avait mon premier salarié, et puis voilà, maintenant on est 6. Donc, et puis...
Donc au début, on s'y colle soi-même.
Ah oui, oui, on fait tout. Enfin, je veux dire, c'est comme tu disais, Sandra, il faut rencontrer les gens, discuter, expliquer son histoire. Ça, c'est très important. Et puis voilà, un petit peu de presse, des retombées presse, etc. Mais pour nous, ce qui a le plus marché, c'était les blogueuses. Voilà, quand vous tapez Olution, vous avez, je pense, 3000 articles sur le web, on est partout. Donc, et du coup, c'est vrai que ça nous a vraiment aidé. Et ça, c'est grâce à Internet, Dieu merci que ça existe, parce que ce que moi, je vis... ce que j'ai pu faire, jamais j'aurais pu le faire, je pense, en 2000, parce que j'avais une barrière d'accès au marché qui était énorme. Ça veut dire qu'il y a peut-être plein de super bonnes idées que vous avez actuellement, que vous pouvez vraiment tout mener à bien grâce à Internet, grâce à une façon un petit peu différente et maligne de le faire. Donc je trouve que l'ère est vraiment hyper excitante de ce point de vue-là.
Sandra,
j'ai juste une question. Qui lit le plus la presse ?
Qui lit beaucoup la presse ?
Non, qui lit le plus la presse ? Non, mais la population... Ce sont les journalistes. C'est bête hein, comme question et c'est très bête comme réponse. Mais effectivement, dès que vous avez un article, bah, les journalistes lisent et vont le réécrire ou vous mettre dans des fichiers, etc. Donc c'est ça qui fait boule de neige, c'est que qui lit le plus la presse, les journalistes.
Mais c'est vrai aussi qu'en fait, les modes de communication, quand on a démarré, on était sur de la presse, sur de la radio, sur voilà. Et en fait, au fur et à mesure au fur et à mesure du temps, ben on a fait une évolution complète sur le digital. Nous, au démarrage, quand on cherchait des franchisés, ben on paraissait dans la presse.
Alors, Laurence, la com autour de la marque, par exemple.
Alors, ben, la com autour de la... Moi, par exemple, en ce moment, un franchisé qui rentre dans le réseau, la première année, il bénéficie entre un budget de 500 à 600 000 euros de com.
Mais au début,
au début, oui, parce qu'il y a un début.
Là, c'est facile.
C'est facile, si on veut, mais au début, quand c'était le financement de l'agence qui me permettait de faire de la communication.
D'accord.
Et en fait, après, il faut utiliser, en fait, moi j'utilisais beaucoup la partie pour le lancement de mon affaire. Ce que j'avais à faire vis-à-vis de mes clients pour en faire un axe de communication. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un client qui avait un recrutement important, j'utilisais le média radio parce qu'en même temps, je communiquais sur mon enseigne, quoi. Donc en fait, j'utilisais un média pour lui, mais aussi pour moi, quelque part.
D'accord.
Donc pour donner une image en fait de dynamisme de l'enseigne. Donc ça, c'était pour la partie lancement de l'affaire, parce qu'en même temps que je lançais l'affaire, je lançais la franchise. Mm-hmm. Donc, et pour la partie franchise, ma première communication a été un peu particulière. J'ai pris un petit encart dans le magazine Défi pour bien m'assurer que bon, ce que j'étais en train de faire, j'allais avoir des gens qui allaient être intéressés. Et j'avais, comme je venais de la Redoute, j'avais pris une petite astuce qui était de dire je vais inventer un nom, comme ça si quelqu'un demande cette personne, ce sera forcément un candidat à la franchise. Donc en fait, je m'appelais Claire Doineau. Et pour la petite histoire, après, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Claire Doineau fait toujours partie de votre personnel ?» Alors je dis « Oui, bien sûr, c'était moi. » Il m'a dit « Je crois que je l'ai rencontrée à une soirée de la NDRH, ou très certainement. » Voilà, c'était mon ombre. Voilà, donc et ça, c'est des petites astuces qui permettent quand on n'a pas les sous, il faut être plus malin.
Ouais.
Voilà, alors maintenant, pour mes franchisés, c'est beaucoup plus simple.
Ouais.
Et après, j'ai beaucoup travaillé sur la communication extérieure, donc pour participer à des prix cette année, en
ça,
fait...
Ça, c'est important, hein, voilà. Ça revient souvent, les prix.
Il y a
hein.
Woman Equity. Alors, je vais quand même vous dire un truc un peu particulier. Quand mon attaché de presse m'a dit « Laurence, il y a Woman Equity, vous êtes dans les 50 meilleures entreprises françaises dirigées par une femme, il faut que vous alliez sur cette manifestation. » Elle me dit « Je sais que ça va pas vous plaire parce que c'est un truc spécial femme et que vous aimez pas les castres. » Elle m'a dit « Mais on est bon dans la presse, en fait, sur la partie franchise. Il faut qu'on commence à être bon dans la presse économique et je pense que c'est intéressant pour vous. » Et effectivement, j'y suis allée, je suis intervenue sur scène, je faisais partie des 4 femmes qui intervenaient. Les gens de Woman Equity sont venus dans mon entreprise, ont été vraiment, ils ont bien aimé ce qu'ils ont vu. La personne m'a invitée, vous allez voir comme quoi c'est boule de neige, hein. La personne m'a invitée à un petit déjeuner avec Emmanuel Macron à Bercy au mois de mars. À partir de là, ils ont fait une enquête sur moi et ils m'ont attribué le 15 juillet la Légion d'honneur. Donc, vous voyez, il y a vraiment un côté très boule de neige par rapport. Et en fait, la vie n'est fait que de rencontres à partir du moment où on saisit les opportunités de rencontrer. Et en fait, même si on est un peu fermé à des choses, des fois, il faut quand même aller voir. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'était super bien et qu'il y avait et que je me suis ressourcée auprès d'autres femmes parce que des fois, j'avais l'impression d'être un peu isolée. Et je me suis dit, mais il y en a plein des comme moi qu'on la pêche et qu'on a envie de faire plein de choses. Et finalement, c'est transcendant, je trouve, comme tour de table.
Donc, si vous voulez des conseils pour buzzer, pour avoir la Légion d'honneur,
Laurence. Et voir Emmanuel Macron éventuellement.
Hélène. Comment on buzz avec
oui, le buzz et la communication, c'est un peu comme tout le reste, il faut aller le chercher. Et donc c'est d'abord peut-être presque arriver à avoir le réflexe d'inventer une histoire et de saisir, de transformer
donc
un
là,
peu
on
tout
revient vraiment
en...
sur l'histoire. C'est
oui,
important de créer une histoire.
À la fois l'histoire et le fait de saisir un peu toute occasion, tout événement, et de le transformer
l'actu,
en prétexte à communiquer, et ne surtout pas attendre. Effectivement, s'il y a une participation à un salon, à un trophée, ou peu importe, une avancée...
C'est la méthode de la Blacard de réagir tout le temps sur l'actu aussi.
Exactement.
En termes de communication,
Alors c'est sans doute blabla. Alors c'est assez répandu dans le web, on appelle ça hacker la communication et essayer de profiter de toute occasion pour faire parler de soi.
Est-ce que vous avez pris des cafés avec les journalistes aussi?
Alors dans un premier temps, ça a plutôt été donc essayer de faire parler de soi un peu tout le temps. Et ensuite l'été dernier. Juste avant l'été, au printemps dernier, pardon, j'ai fait appel à une personne qui travaillait aux relations presse d'Alta Vista quand j'y étais il y a plus de 15 ans et qui est devenue indépendante à ce moment-là. Et je lui ai dit, écoute, tu vas voir, en tant qu'indépendant, je suis sûre que tu as énormément de choses à faire avec les start-up. Et moi, je peux t'aider à essayer de monter ton offre. Et je
win-win.
J'ai été cobaye start-up pour lui, pour qu'il monte son offre.
C'est pas mal.
RP start-up. Et au printemps dernier, c'est lui qui, effectivement, m'a fait rencontrer des journalistes.
De l'échange de service.
Au-delà de la presse web, qui est assez structuré et qui avait parlé de nous dans les premiers mois, mais pour passer sur LCI par exemple, etc., ça il fallait ce niveau d'interlocuteur dont c'est le métier, de relancer les journalistes. Et effectivement, la première chose qu'il m'a dite, c'est comment est-ce qu'on raconte l'histoire et de travailler à la fois sur les personnalités, qui porte le projet, pourquoi c'est toi maintenant qui veux faire ça.
Une petite blague quand même, à force de prendre des cafés, café égale croissant, croissant machin, des déjeuners, bon, vous en avez quand même pris moins que moi, je le vois, on prend quelques kilos.
Mais en fait, il faut saisir toutes les opportunités, être réactif. Enfin, moi, c'est pareil, on m'avait demandé sur une émission d'expliquer quelque chose sur les cosmétiques bio, donc je fais, bon, ok, je suis passée. Après, ils m'ont redemandé, je suis passée 3 fois, 4 fois, c'était La Quotidienne sur France 5, et après, ils m'ont dit, est-ce que tu veux revenir tous les lundis midi? J'ai fait ok. Et donc ça fait depuis la deuxième saison, je fais tous les lundis midi, j'explique comment prendre soin de soi de manière naturelle, saine. Ben voilà, c'est quelque chose complètement dingue où les gens se disent mais pourquoi elle est arrivée là elle. Et maintenant les gens quand parfois ils me reconnaissent, ils me disent vous êtes journaliste, je fais ah non pas du tout, je suis pas du tout ça. Donc c'est comme quoi ça t'a amené à la Légion d'honneur. Moi ça m'a emmené à me faire coiffer et maquiller tous les lundis de manière très bien, beaucoup mieux que naturelle. Voilà.
Delphine, la reine du buzz. Quand l'ouverture du magasin a eu lieu, il y avait des pages et des pages dans tous les magazines. Qui a
Non, alors ça a commencé. Alors il y a aussi, il y a effectivement. Nous, on a commencé par les réseaux sociaux.
Qui s'y est mis ?
Alors moi. Je dis nous souvent, mais en fait, je suis toute seule. Hein.
On est beaucoup couverture. De personnes dans ma tête.
C'est une couverture. Nous sommes pleins. Alors j'ai beaucoup de prêts de nom, moi aussi. Ouais.
Il y a Renaud qui a fait une chanson là-dessus. Je suis une bande de jeunes à moi toute seule.
Ça m'arrive aussi sur Messenger de dire Delphine Pisson vous répondra prochainement. Il m'arrive aussi de voir dans la boutique des gens qui disent je connais très bien Delphine Pisson. J'ai dit ah ouais, elle est sympa. Ça m'arrive souvent. Donc les réseaux sociaux, beaucoup. Alors au départ, effectivement, on n'avait pas de moyens pour la com. Par contre, on avait un produit hyper fédérateur, l'alimentation, le plaisir,
donc, par
le
vous,
goût.
Alors nous, on est parti en B2C, c'est quoi? C'est Facebook, Twitter.
Nous, c'est alors Facebook et Instagram.
Et Instagram.
Alors c'est vraiment les deux outils que j'utilise au quotidien. C'est facile dans notre métier, parce qu'en l'occurrence, rien de plus gourmand qu'un gâteau, qu'un croissant qui sort du four ou qui est dans le four encore, etc. Donc au moins une ou deux fois par jour, je fais une photo et je la mets sur les réseaux sociaux. Quand c'est de la viande, je modère parce que je vais me faire engueuler. Il y a tous les végétariens qui guettent. Par contre, quand je mets des fruits, bizarrement, les viandards ne disent rien. Mais en l'occurrence, on a à peu près 50 000 followers aujourd'hui entre Facebook et Instagram. Donc c'est une vraie communauté. Ensuite, au moment de l'ouverture... Quelques mois avant l'ouverture, en fait, il y a un journaliste, alors la gastronomie, l'alimentation, c'est un petit secteur, en journalisme aussi, il y a un journaliste très connu qui travaille pour l'Express Style, qui est très spécialisé, qui s'appelle François-Régis Gaudry, qui m'avait contacté en direct, il avait récupéré mon numéro de portable, en me disant qu'il voulait faire un papier sur nous.
Moi, j'étais très angoissée parce qu'on était 3 mois avant l'ouverture et je me suis dit, oh là là, ça va être hyper déceptif. S'ils commencent à parler de nous maintenant, ça va nous échapper, on va pas savoir gérer, etc. Et puis, j'ai refusé en lui disant, non, c'est trop tôt. Il s'est vexé parce que normalement, on refuse rien, François-Régis Gaudry, mais j'avais pas eu l'info. Et du coup, il a insisté. Et puis finalement, on s'est rencontrés. On a déjeuné ensemble. Ça a été le début de ma prise de poids fulgurante l'année de la préparation. 8 kilos en un an, c'est très sympa. Et sans grossesse. Pas d'enfant. Une maison plus, simplement. Donc on a déjeuné ensemble une première fois, une deuxième fois. Finalement, il a fait 8 pages dans l'Express Style qui sont sorties le jour de l'ouverture de la Maison Plisson. Et comme c'est un petit monde et que les journalistes aiment bien lire ce que les autres journalistes disent ou racontent, ça avait un petit peu fuité avant, suffisamment pour que le L fasse 8 pages aussi, le même jour. Donc après, ils se sont détestés, mais moi, je les aimais bien tous les deux. Et puis après, en fait, quand on a 8 pages dans le L et 8 pages dans l'Express Style, bah, ça fait boule de neige. Et effectivement, il m'est arrivé parfois de répondre à tout et n'importe quoi comme question, du type, ah, il paraît que vous avez 4 enfants, super, on va faire un article. Ok, c'est quoi le rapport avec la Maison Plisson? C'est pas grave. Il m'est arrivé d'être contacté, alors il y a des limites. Le truc qui me revient à l'esprit, qui était assez drôle, un jour, en pleine journée, je reçois un coup de fil du bureau de presse qui me dit, est-ce que tu peux être dans une demi-heure sur le plateau de TF1 pour le 13h? Je dis, ah, bah, je sais pas, pourquoi ? Ben pour parler du melon. Là, il y a eu un blanc, je me suis dit, mais je ne suis pas spécialiste internationale du melon, en fait. Ça va être un peu... Vous êtes sûr de votre coup, là, sur le melon ? Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, non, là, je ne le sens pas, devant le 13h sur le melon, dans le rôle de la spécialiste internationale du melon. Donc, en l'occurrence...
Voilà. C'était peut-être... T'as pris le
melon ?
Alors,
ça pouvait peut-être être là-dessus. J'ai vu l'émission, c'était bel et bien sur le fruit. Donc, voilà. À un moment donné, le truc fait boule de neige. Évidemment, quand on est chef d'entreprise et qu'on a 52 salariés sur un premier projet... On est évidemment content qu'il y ait de la communication. C'est à double tranchant. Plus vous êtes exposé, plus vous êtes exposé aussi aux critiques. On a eu beaucoup de gens qui ont critiqué le projet, etc., sans même venir, sans même le voir. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on parle de nous et que nous, on fasse le boulot au quotidien pour que les gens qui viennent, de fait, soient satisfaits du travail qui est fait à la Maison Plisson. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à canaliser et à organiser.
Sandra.
Non, juste vous dire qu'en fait, c'est un grand avantage d'être une femme. Voilà. Et notamment pour la presse, mais pour les prix, pour les tables rondes, pour les interventions. Donc, profitez-en. Il y a quelques messieurs, vous pouvez aussi avoir votre terrain de jeu, mais il y a moins de femmes qui créent, il y a moins de femmes qui font de la croissance aussi, qui créent de l'emploi, etc.
Donc, elles sont plus mises en lumière.
Absolument.
Et puis, il y a les livres aussi, Sandra. Tu peux en parler une minute.
J'en parle une minute. Non,
deux livres.
J'ai deux livres. Le premier, je l'ai écrit en 2010, donc j'avais 10 ans. Et comme chaque fois, après les interventions, on venait demander « Ah bon, mais t'as dit ça sur les banquets, t'as dit ça sur le réseau, comme vous allez peut-être faire. »
L'entreprise avait 10 ans, non ?
Oui, l'entreprise avait 10 ans.
Donc, ouais. J'avais 10 ans, ça va un peu.
L'entreprise avait 10 ans, c'était en 2010. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, pour partager, je vais écrire un bouquin sur toute l'histoire des 10 premières années de la société. Donc, mélanger à ma vie privée, parce qu'on n'a pas une casquette le matin et une casquette le soir. Donc, l'idée, c'est de donner toutes les recettes sur créer, développer, développer l'humain, les levées de fonds, les crises de cash, acte 1, acte 2, acte 3, acte 4. Je pourrais aussi en faire une dizaine. Donc voilà, il faut juste pour encourager, pour dire, il ne faut pas que ça fasse peur. Et récemment, donc j'ai sorti un nouveau bouquin, mais je vous en parlerai peut-être à la fin. Ouais. Il est à la librairie du Salon et c'est un bouquin hashtag ambition. Je vous ferai faire un petit jeu à la fin. Parce que ambition, quand on dit de quelqu'un, oui, c'est une ambitieuse ou c'est un ambitieux, petite critique sournoise quand même. Et quand on dit celui-là, il n'a aucune ambition ou elle n'a aucune ambition, c'est la grosse critique. Donc je me suis dit, ce mot... Il est mal placé, on va essayer de lui redonner ses lettres de noblesse. Et j'ai fait ça avec Evelyne Pladnik-Cohen, qui est un stand juste derrière, Booster Academy aussi, qui est une fille très punchy. Voilà.
Donc on va terminer sur une note ultra positive avec tous ces bons conseils. Comment on réalise tout ça, ce budget, ces équipes, cette croissance, tout ça, tout en étant super équilibré?
Qui est super équilibré ici? Levez la main.
Alors il y en a qui carburent
comme
au café,
tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Comment... Tout le monde en essayant de faire, de porter toutes les casquettes qu'on est censé porter toute la journée, mais je pense que c'est pas strictement lié au principe de la femme entrepreneur.
Non, mais déjà il y a peut-être un conseil à dire. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, c'est pas forcément les 35 heures qui nous attendent.
Pas à proprement parler, ça dépend sur quelle durée, on les estime.
3 jours, oui.
Sur 2 jours, ça tient, ouais.
Non, alors, après, c'est effectivement la motivation et le plaisir qu'on tire de cette expérience d'entrepreneuriat, de monter sa boîte, d'avoir l'audace d'y aller, de se réaliser, d'aller vers son plaisir, vers soi-même, vers ce projet qui nous porte et dont il faut qu'il nous porte parce qu'on va en bouffer 24 heures sur 24, que votre mari va en bouffer 24 heures sur 24, vos enfants, vos amis, tout le monde vous suppliera de parler d'autre chose pendant les dîners, en tout cas c'est ce qui m'arrive à peu près tout le temps. À un moment donné, le prix à payer, c'est qu'effectivement, c'est un investissement de temps, d'énergie, mais c'est un peu comme avoir un enfant. Alors, il y a beaucoup de femmes dans la salle et je pense que c'est un sujet qui est quand même assez proche, en tout cas, je trouve. Quand on attend un enfant, on a 9 mois pour se faire à l'idée. On sait que ça va être fatigant, qu'on va prendre du poids. Il y a des inconvénients à avoir des enfants, surtout quand on les a. À la limite, bon, on peut faire. Mais avoir une entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça fait prendre du poids, donc aussi. Mais quand c'est là, c'est un tel plaisir, c'est une telle réalisation. Avoir des salariés qui ont envie de venir bosser le matin, trouver, être moteur, donner de l'énergie, échanger, construire quelque chose, c'est quand même très concrètement suffisant à compenser la photo du chien sur le bureau, les congés payés, attendus, la fiche de paye à la fin du mois. C'est une question d'organisation, mais dans la vraie vie, si l'argent n'est qu'un moteur au quotidien pour aller bosser, c'est dommage. Je suis très consciente du fait que si c'était bénévole, il y aurait moins de monde dans le métro le matin, mais dans la vraie vie, quand c'est sa boîte, la question ne se pose plus, parce que c'est quand même avant tout super moteur et extrêmement excitant. Voilà.
Laurence, comment on garde l'énergie de...
Moi, je pense que l'énergie, elle vient, exactement, hein, ce qui vient d'être dit, elle vient de la passion, elle vient, en fait, de faire des choses qu'on aime. D'ailleurs,
très concrètement, est-ce qu'on va faire du sport
alors,
à côté,
alors,
par
oui,
exemple?
Alors, oui, moi, j'ai normalement 2 séances de pilates avec une coach par semaine, mais souvent, ça se résume à 1, parce que c'est pas toujours facile. Donc, en fait, au bout d'un moment, on apprend qu'il faut prendre soin de soi, aussi pour pouvoir être performante, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est en prenant soin de soi qu'on est plus performante. Donc ça, c'est la ressource, on va dire, sur la partie physique, c'est utiliser des produits naturels et c'est aussi se ressourcer avec d'autres. Moi, je fais partie d'un club de chefs d'entreprise, ça s'appelle l'APM, c'est une journée par mois de formation avec des gens de haut niveau sur des thématiques qui nous permettent en fait d'être toujours proches de l'environnemental et des choses qui se passent en termes de management, d'économie.
Donc sortir.
De développement personnel. C'est-à-dire sortir de son microcosme parce qu'en fait, au bout d'un moment, on ne se ressource plus et on tourne en rond. Donc si on ne va pas chercher ailleurs et si on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs, c'est pas une bonne chose. Donc à mon avis, ça fait partie des choses importantes. Par contre, bon là, effectivement, moi, c'est plus facile de dire ça. Et ne croyez pas que je survends ce que je vends, parce que je vends aux gens quelque chose que je serais capable d'acheter, très sincèrement. Je ne sais pas si tous les franchiseurs peuvent dire ça. Mais moi, je vends à mes franchisés l'idée de faire quelque chose qu'ils aiment, en leur disant, mais venez voir, moi, je vous fais un parcours d'intégration suffisamment long pour que vous sachiez si c'est fait pour vous, si vous allez prendre du plaisir au quotidien. Et si ce n'est pas le cas, surtout, ne prenez pas ma franchise. Et après, c'est une franchise utile. On travaille du lundi au samedi. Donc, on a aussi le droit d'avoir une vie de famille épanouie le samedi et le dimanche. Donc, toutes les franchises ne proposent pas ça non plus. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir aussi cette ressource. Enfin, moi, je trouve que voilà, la partie sport, la partie environnementale, la partie échange avec d'autres et puis la partie famille, enfin, tout ça fait un équilibre, même si ce n'est pas toujours avec un mari, mais il y a d'autres éléments autour de nous et d'autres personnes tout aussi intéressantes.
Alors, ouais, il y aura une séance à faire, comment être entrepreneuse et garder son mari.
C'est l'année prochaine.
Voilà. Et après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nous qui sommes partis. Hein.
Alors, Hélène, Anne-Marie, est-ce qu'on arrive à lever le nez du guidon un petit peu quand on est H24 sur son projet ?
Alors c'est un problème parce que c'est une vraie drogue en fait.
Ouais.
Et je pense que c'est pire que ça. Un jour, je me suis dit, non seulement c'est une drogue, puisqu'effectivement, en tout cas moi, ce qui m'a porté à entreprendre, c'est principalement de faire de ce que je suis et mon caractère mes atouts et donc d'être à fond moi-même et de l'assumer. Mais donc c'est une vraie drogue dont on se rend compte assez vite qu'on se la fabrique soi-même. Et donc on peut en fait régler le dosage et régler les ingrédients. Et donc c'est assez pervers et c'est d'autant plus compliqué d'en sortir et de garder une certaine distance. Moi, je pense qu'il y a un effet mécanique qui se crée. C'est comme j'ai l'impression d'être high à 300% toute la journée. Mécaniquement, le soir, je suis plus là. donc, je suis devenue très très casanière et très chez moi, blackout, invisible à certaines heures. Donc, de façon avec des amplitudes d'extériorisation et d'intériorisation très, très grandes.
Hélène. Anne-Marie, pardon.
Bah, en fait, quand je réfléchis à ce qui me pousse depuis quasiment 7 ans à travailler 7 jours sur 7, en fait, quand vraiment je me connecte vraiment très personnellement, pour moi, c'était l'idée de changer la façon dont on prend soin de soi, d'essayer de réconcilier ce qui est bon pour soi avec le bon pour tous et tout. Et ces valeurs-là, en fait, cette valeur-là, cette envie, c'est ça qui m'a donné envie de me porter. Voilà. Et ouais. Je pense que le monde tel qu'il est actuellement a besoin d'entrepreneurs et d'entrepreneurs femmes avec une vision où il n'y a pas juste que les aspects financiers, mais aussi l'idée que son entreprise soit un acteur citoyen. C'est ce que j'essaye de faire avec Olution. Et en fait, le monde a besoin de vous, a besoin, je dirais, de femmes qui ont envie de changer les choses et qui ont envie d'apporter leur sensibilité et leur point de vue. Et donc, moi, j'ai envie de dire, voilà, osez, n'ayez pas peur. Et je pense que notre plus grand ennemi, parfois, c'est soi-même. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup douté de moi-même. Je doute encore beaucoup, beaucoup de moi. Et je me suis dit, mais pourquoi autant de doutes? Et c'est souvent d'autres femmes, d'autres chefs d'entreprise qui m'ont tendu la main, qui m'ont dit mais non, écoute, vas-y. Et voilà, ne doutez pas, on a besoin de vous, le monde a besoin de vous, et donc je vous souhaite bonne chance.
Sandra, pour terminer, je sais que tu as une organisation draconienne de ta vie
draconienne, je sais pas. Moi, j'ai essayé de faire trois choses. La première, c'est de me dire, dès le début, je ne travaillerai pas le week-end. Voilà, donc ça, c'est très dur, mais je me le suis imposé et je l'ai respecté. J'avais effectivement deux enfants de 1 et 3 ans, et je me suis dit que si jamais je passais mon week-end à travailler, ce serait dramatique. Et puis, il faut tenir dans la durée. Hein. Moi, j'ai quand même tenu 16 ans, donc je viens de vendre la société, je continue à l'accompagner un petit peu, mais voilà, sinon on est burn-out au bout de 2 ans si on bosse H24. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vous dit assez vite, attention, tu vas être chef d'entreprise, tu vas être isolé. C'est assez vrai, vous sortez d'un grand groupe où vous avez des collègues, des bureaux, des boss, etc. Et là, des réunions partout, là, vous l'avez plus. Donc je me suis mis dans des clubs. Donc là, on en a cité quelques-uns. Moi, je me suis beaucoup impliquée dans Croissance Plus, où j'ai été vice-présidente pendant 6 ans. Donc voilà, donc ça permet de partager. Ça permet, et grand proverbe, quand on s'analyse, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure, hein. Tu l'as dit, mais c'est vrai que quand vous comparez, vous allez voir, vous faites les choses mieux que les autres. Et puis la troisième règle, c'est de dire finalement, il faut garder tout ce qu'on aime, donc aimer être avec ses enfants, sa famille, aimer faire du sport, aimer faire du shopping, peu importe. Mais il faut déléguer en fait le plus possible ce que vous n'aimez pas ou ne vous pouvez pas faire. Donc c'est vrai que ce qui vient en tête de liste, c'est le ménage. Après, bah, vous avez le soutien scolaire aussi, parce que les parallélépipèdes quand on rentre à 20h, c'est dur. Bon, voilà, donc j'ai même délégué moi les papiers administratifs, vous voyez, donc jusqu'où je suis allée dans la délégation. Ça coûte de l'argent, mais après je me suis dit, est-ce que c'est la santé ou l'argent qui est important? C'est pas grave. Et donc j'ai une petite colonne, j'aime pas. Et puis, dans le sens horizontal, j'ai de la valeur ajoutée ou pas. Voilà. Alors, le « j'aime pas, j'ai pas de valeur ajoutée », type le ménage, ça dégage.
Sandra, est-ce que tu peux, sur ces bonnes paroles, est-ce que tu peux nous faire le mot de la fin?
Alors, le mot de la fin, d'abord, merci à toutes d'être là, parce que je vois que la
Sandra
salle est
marraine.
Et je suis effectivement, j'ai l'honneur d'avoir été sollicitée pour être marraine de la femme, donc de cette journée-là, de la journée des femmes entrepreneurs, donc j'en suis ravie. D'abord, parce que je pense que les femmes ont presque plus d'atouts, excusez-moi messieurs, mais pour créer une société, parce que polyvalence, générosité, débrouillardise, des égos pas surdimensionnés, etc., c'est des généralités. Ça ne veut pas dire que les hommes
on
ont des égos.
On vous aime beaucoup,
mais,
là, Léa.
Voilà. Il y a aussi un petit proverbe qui dit que quand ton égo est supérieur à ton cash flow, là, tu es mort. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que, un, les femmes ont beaucoup d'atouts, donc allez-y. Deux, n'ayez pas peur parce que il faut une petite dose d'inconscience quand même pour se lancer, c'est vrai, mais c'est juste un parcours fabuleux et je trouve qu'il y a un plateau, et je dis pas ça parce que je suis sur le plateau, mais formidable, vous avez une chance exceptionnelle et moi j'aimerais féliciter la sélection, donc le salon SME, parce que vraiment vous avez un échantillon d'enthousiastes passionnés qui est juste incroyable. C'est vrai que le grand luxe qu'on a quand on crée une entreprise, il y a beaucoup d'obstacles, c'est vrai, mais au global, vraiment, la colonne des plus est largement supérieure à la colonne des moins, et le plaisir de travailler avec des gens qu'on choisit, c'est juste incroyable, voilà. Et le luxe qu'on se s'offre quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on choisit les gens avec qui on veut travailler. Si on veut des gens qui sont loyaux, transparents, sympas, généreux, travailleurs, souriants, optimistes, positifs,
on travaille avec eux. Et tous ceux qui ne sont pas ça, on les prend pas, on s'en fiche. Hein. Donc toi, tu es dans le recrutement, mais voilà. Donc vraiment, moi, j'encourage la création d'entreprise. Simplement, il faut savoir que financièrement, c'est pas si évident. Donc, suivant le système familial, le couple, il faut quand même solidifier un petit peu et rassurer, ou en tout cas sécuriser un peu les finances, parce que c'est quand même un peu des sacrifices financiers. On se paye pas tout de suite, et même quand on se paye jamais comme un grand groupe pourrait le faire. Mais à côté de ça, il y a tellement
pas
de satisfaction.
D'accord. Ah, pas d'accord. Moi, je peux vous dire que mes franchisés, pour la plupart, gagnent beaucoup plus aujourd'hui en étant franchisés d'Emporis qu'avant.
Alors, il y a des exceptions.
Oui.
Mais moi, je pense que quand je compare mon salaire avec celui de mes collègues de Coca-Cola, après 25 ans de Coca-Cola, je vous assure que c'est... Alors, on mise sur l'avenir, on mise sur la sortie, on mise sur plein de choses. Non, mais il ne faut pas s'attendre. La mauvaise idée, c'est de dire « je veux créer pour devenir riche ». Voilà, ça, c'est la mauvaise idée.
Vrai. Ça, c'est vrai.
Il faut créer par passion, par envie, par conviction. Effectivement, il y a 19 millions de Français qui veulent créer. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de 500 000 par an, qu'il y en ait 1 million. Et que là-dedans, les 30% de femmes, c'est déjà pas mal. Mais qu'on devienne plutôt 40 ou 50. D'ailleurs, il y a des accords qui ont été signés avec la ministre Rossignol là, aujourd'hui. Et surtout, se dire que ces 40% ou ces 30%, ce qu'il faut, c'est de la croissance. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui créent, mais qui parfois restent avec une, deux, trois, quatre salariés, et c'est tout à fait légitime, il n'y a aucun problème, chacun a son ambition. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre, hein, c'est Ambition 360.
En dédicace.
On peut dédicacer, je ne sais pas si la librairie est encore ouverte.
Non, plus en dédicace.
Mais bon, on ne dédicace pas, mais en tout cas, s'il y en a qui veulent, je le dédicacerai à distance, ou je les inviterai à venir. Mais voilà, l'ambition, c'est 360, c'est pas que professionnel, c'est aussi personnel, et on peut avoir des beaux projets associatifs, sportifs, amicaux, voilà, tout est permis, et on est beaucoup dans la co-ambition, voilà, il faut partager. Donc partager, et vous avez vu des exemples fantastiques de boules de neige incroyables, et c'est vrai, moi je vous les ai pas expliqués, mais pareil, je suis allée à l'Élysée, Matignon, enfin voilà, des choses qui arrivent parce que c'est le réseau, etc., et auquel cas on n'y pense pas quand on crée, voilà, mais c'est juste fantastique. Donc osez, entreprenez, éclatez-vous.